Alors, on va continuer sans désemparer, comme disent les juristes, et ouvrir ce dialogue, cette confrontation. On va prendre le risque de la confrontation, Madame le Ministre. Alors, vous nous disiez que c'était une des premières rencontres de ce genre. Je me souviens avoir assisté à ce que je crois être la première, il y a 30 ans, qui était ouverte par Pierre Bourdieu. Et donc, Pierre Bourdieu, qui avait eu cette phrase qui était troublante, on disait « servir à quelque chose pour la recherche, c'est servir le prince ». Bon, et pendant, dans sa bouche, c'était l'objet d'une certaine suspicion. Et je me souviens avec Jacques Comaille, qui avait organisé cette première rencontre. Cette tradition se continue effectivement beaucoup trop, avec un espacement beaucoup trop important. Et je ne voudrais pas prendre trop de temps pour cette première table ronde qui porte sur une question centrale, qui est la question de l'accélération. Et je ne ferai pas de commentaire si ce n'est vous lire cette phrase de Nietzsche. En préparant notre table ronde, qui me semble résumer le paradoxe dans lequel se trouve la justice. Nietzsche dit, je cite, « L'Occident tout entier a perdu ses instincts d'où naissent des institutions, d'où naît un avenir. Rien qui aille plus à rebours de son esprit moderne. On vit au jour le jour, on vit très vite, on vit de manière irresponsable. C'est précisément cela qu'on appelle liberté. » Ce qui fait que les institutions sont des institutions, on le méprise, on le déteste, on le repousse. Et vous l'avez compris, il parle du temps. Il parle de l'idée qui va être merveilleusement développée par Amut Roza, que la modernité, c'est une accélération du temps, c'est quasiment une définition de la modernité. Alors, puisque le temps est accéléré, j'accélère moi-même cette table ronde qui réunit trois chercheurs ou universitaires et trois membres d'institutions du ministère de la Justice. Et la parole sera d'abord donnée aux chercheurs. Aux institutionnels, si je puis me permettre de les appeler ainsi, dans la perspective précisément d'un dialogue, donc d'intervention relativement brève, de façon à pouvoir introduire une discussion, une confrontation entre les savoirs, une confrontation entre les perspectives, celle des chercheurs et celle du prince, pour continuer la métaphore de Pierre Bourdieu. Et donc, je vais donner la parole successivement à Christian Moinat. Christian Moinat, qui a écrit plusieurs livres, notamment sur le juge des enfants, mais un qui porte précisément sur notre thème d'aujourd'hui, puisqu'il s'est intitulé « Une justice dans l'urgence, le traitement en temps réel des affaires pénales ». C'est avec Benoît Bastard. Il a aussi écrit un livre sur l'avenir du juge des enfants, « Éduquer ou punir », c'est dire si il est dans le sujet de ce matin. Puis ensuite à Madame Béatrice Frankel, qui est une anthropologue de l'écriture et qui s'intéresse entre autres à la signature électronique, elle fait un travail sur les huissiers, et donc là aussi qui va aborder ce thème de la dématérialisation et en quoi la dématérialisation accélère aussi cette accélération. Et ensuite à Madame Soraya Amrani-Mekki, qui est professeure de droit à l'Université de Nanterre et qui a écrit un ouvrage qui était un livre de chevet pour beaucoup d'entre nous, La théorie générale du procès, qui est un ouvrage effectivement fondamental qu'elle a écrit avec Loïc Cadier, je crois, et qui est une réflexion procédurale sur l'idée de procès. Et puis ensuite, je donnerai la parole à l'inspecteur général, M. François Fels, au directeur des services juridiques, M. Jean-François Bénel, et puis à la directrice des affaires
Pardon.
Judiciaire,
qu'est-ce que j'ai dit?
Juridique, mais c'est la confusion.
Je n'oserais jamais.
Il y a bien un directeur de la mondialisation. Alors, Madame Marie-Suzanne Lequeo, qui est directrice des affaires criminelles et des grâces. Donc, commençons par Monsieur Christian Moina. Pour 10 minutes, je serai impitoyable sur le temps.
Merci, Madame la Ministre, Messieurs, Dames. Je voulais vous remercier pour cette invitation. C'est toujours très intéressant de confronter les travaux de recherche et les praticiens. Je pense qu'il faut que ça se développe encore plus. Nous allons parler de l'accélération, très rapidement, comme il se doit. Ça fait une vingtaine d'années que j'observe le fonctionnement des tribunaux, surtout du côté pénal. Et effectivement, on a pu assister à une véritable mutation de cette institution judiciaire. Pas seulement dans l'organisation ou la gestion, puisqu'on sait bien qu'il y a eu l'émergence et l'affirmation de la notion d'efficacité et de productivité, je dirais, pour faire rapidement. Mais on voit aussi comment il y a eu un changement d'état d'esprit de la part des magistrats. Je dirais que les cultures professionnelles ont complètement changé. Et observant d'autres institutions, je ne suis pas sûr que le public, l'opinion publique, ait pris la mesure de ce changement à l'intérieur de l'institution judiciaire. Et effectivement, vous entendant, on peut se demander si on n'est pas arrivé à un maximum dans ce changement. Alors il y a un travail qui résume assez bien ce questionnement, un travail sur l'accélération du temps dans l'institution judiciaire que nous avons réalisé avec Benoît Bastard et des collègues belges, qui permet de faire une comparaison internationale. Certes, la Belgique n'est pas très éloignée, mais il est intéressant de voir certains points, surtout quand on pose cette question de la managérialisation et de l'accélération du fonctionnement de ces institutions. Donc nous avons travaillé sur le traitement pénal, sur le civil et aussi sur les assises. Je ne parlerai pas de tout, évidemment, puisqu'il faut respecter les délais. Et M. Garapon m'a demandé de lancer le débat. Donc je me permettrai quelques formules peut-être un peu lapidaires, quelques constats un peu rapides qui permettra à mes voisins de réagir. Alors ce qu'on a pu constater et ce qui nous a conforté dans des idées, enfin des résultats de recherche qu'on avait déjà eu, qu'on avait déjà produit auparavant, c'est une accélération tous azimuts dans les tribunaux français. Il y a eu beaucoup de transformations ces dernières années, mais les praticiens continuent à chercher sur le terrain comment accélérer encore plus le traitement des affaires. L'idée générale, c'est qu'il y a une demande sociale d'une justice plus rapide. Et je pense qu'on peut interroger ce questionnement. Est-ce que la demande sociale est vraiment celle d'une justice toujours plus rapide et toujours à n'importe quel... et éventuellement, je dirais, à n'importe quel prix, qui est celui de la qualité. On voit notamment comment, sur le petit et le moyen pénal, tout ce qui est traitement en temps réel, accélération, a conduit les acteurs à chercher sans cesse de nouveaux dispositifs pour aller plus vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà constaté ça il y a une dizaine d'années, mais on voit comment les acteurs cherchent toujours à trouver des innovations pour aller plus vite, ce qui mène parfois à des conflits, des tensions entre le siège et parquet, puisque l'un se vante toujours d'avoir un moyen d'aller plus vite, même si ça se fait aux dépens du service de l'autre. Comment, quand le siège et le parquet sur un tribunal s'entendent relativement bien, le procureur général ou le premier président vont, eux, essayer de les stimuler pour trouver d'autres outils pour aller plus vite, mettre en place des indicateurs. Comment le ministère lui-même lance ou lançait peut-être, puisque l'étude est un peu datée, lançait à nouveau des incitations à aller plus vite. Comment se développe le benchmarking, la mise en concurrence sur les indicateurs de productivité des uns et des autres, avec l'arrivée à ce que certains qualifient d'une justice de flux, c'est-à-dire il faut traiter des affaires, il faut les traiter à tout prix, et finalement la qualité devient la variable d'ajustement. Ça a été signalé par Madame la Ministre tout à l'heure, me semble-t-il. Et ce qui est intéressant, pour aller très vite, c'est que quand on regarde la Belgique, il y a aussi une managérialisation très forte. Il y a notamment, sous l'influence des Pays-Bas, puisque nous avons étudié aussi la partie flamande de la Belgique, une managérialisation. Mais beaucoup de choses sont changées par le fait que les magistrats, ou en tout cas l'ensemble de la magistrature, cherchent de temps en temps à mettre un frein, justement parce que cette exigence de qualité fait que la justice ne peut pas aller trop loin. Alors j'en prendrai un exemple qui est celui de l'arrêt Mertens de 2002, de l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Enfin, c'est un système un peu différent du système français. Mais cet arrêt de 2002 refuse la comparution immédiate parce que est estimé que ce serait glissé vers une mauvaise justice si on allait dans un système qui était trop rapide. Et de comparer l'accélération dans le système français et dans les tribunaux belges nous amène à nous dire que peut-être nous sommes allés effectivement un peu trop loin dans cette accélération ça pose donc une série de questions qui est qu'est-ce qui reste de cette notion de justice, de prendre le temps d'écouter les gens, de l'écoute. Il me semble que les usagers se plaignent aussi, peut-être que la justice ne soit pas rapide, mais beaucoup aussi, tant au pénal qu'au civil, se plaignent de ne plus être entendus, de ne plus être écoutés. Il y a une fonction peut-être exutoire de la justice qui n'est plus rendue. La question de l'individualisation, me semble-t-il, est aussi posée. Et évidemment, la réforme est amenée à apporter une réponse à cette question-là, mais on voit bien comment... J'ai parlé tout à l'heure de changement de culture. Auparavant, on avait beaucoup plus de magistrats qui insistaient sur le cas, la bonne décision sur une affaire. Actuellement, pour dire les choses très rapidement, on a plutôt des magistrats qui nous parlent du nombre d'affaires traitées, du taux de réponse pénale traité. Il me semble que ce changement de culture est assez important. Ça nous amène à cette... idée de chaîne, c'est plus seulement la chaîne pénale, mais certains parlent de travail à la chaîne, avec l'impression de prendre des décisions presque automatisées. Et quand on voit fonctionner certains parquets avec le traitement en temps réel, des magistrats qui répondent toutes les 4-5 minutes à un appel de policiers, ça pose un certain nombre de questions sur à la fois leur capacité, le temps qu'ils ont pour réfléchir, pour prendre la bonne décision, pour prendre la décision individualisée. Ça pose aussi une question que je n'aborderai pas, parce que ça demanderait beaucoup de temps, de celle des relations entre la justice et les institutions policières qui met en forme concrètement la politique pénale. C'est pas toujours évident de répondre à cette question. Ça pose la question des barèmes aussi. On voit des magistrats qui de plus en plus appliquent des barèmes pour gagner du temps. Est-ce que être magistrat, c'est appliquer des barèmes? Est-ce que c'est ça la bonne justice? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui méritent réflexion. Et puis ça pose aussi la question, mais là je vois, Madame la Ministre, que je réponds certainement aussi à des préoccupations qui sont les vôtres, celle de la place de l'usager, de la victime, puisqu'on voit bien qu'avec le traitement en temps réel, par exemple dans les comparutions immédiates, la victime, elle est là en théorie, mais elle a souvent pas le temps d'être là, elle n'est parfois même pas sortie de l'hôpital, et ça pose des questions tout à fait intéressantes. Évidemment, tout ça nous pose des questions très vastes sur qu'est-ce que c'est qu'une politique pénale, mais pas du point de vue du juriste, pas du point de vue de la direction, mais du point de vue de l'application concrète. Quels sont les acteurs qui mettent en place concrètement cette politique pénale? Donc on voit bien, si j'essaie de prendre un peu de champ et d'essayer de voir quelle peut être l'utilité de la recherche par rapport aux réformes mises en place, on voit bien comment il y a beaucoup de questions très importantes qui se posent et comment... Il y a deux types de recherches qui sont tout à fait complémentaires. Une évaluation quantitative, avec la mise en place d'indicateurs, de moyens de comptabiliser un certain nombre de résultats. Mais comment cette évaluation quantitative doit être complétée par une observation qualitative avec un examen sur le terrain de comment les réformes sont appropriés par les différents acteurs que sont les magistrats, les conseillers d'insertion et de probation, mais aussi les policiers. Il me semble qu'il y a une dimension importante. Comment, dans leur pratique, ils parviennent ou ont du mal, au contraire, à mettre en place les objectifs de la réforme pour peu qu'ils y adhèrent. Et surtout de voir comment toutes ces personnes réussissent à conjuguer ces principes et puis des considérations très matérielles, très pragmatiques, que le sociologue de terrain aime bien... observer également, même si c'est parfois un peu moins prestigieux que la philosophie du droit ou d'autres exercices. Donc il me semble que la recherche peut aussi être utile. Des ponts, enfin, d'ailleurs, ont déjà été jetés. Nous travaillons assez fréquemment avec un certain nombre de personnes qui sont à cette table. Et je pense qu'on peut continuer à approfondir les travaux et encourager plus de personnes à participer à ces réflexions, à ces évaluations. Je vous remercie de votre attention. Je crois avoir tenu le temps.
Parfaitement. parfaitement tenu. Et donc, je vais passer la parole sans plus tarder à Béatrice Frankel, qui, comme je le disais, est une anthropologue de l'écriture et qui travaille sur une dimension, sur une profession peu présente dans les réflexions sur la justice, qui est la profession d'huissier, et pourtant extrêmement importante dans le déroulement de la procédure. Et elle l'approche en anthropologue, c'est-à-dire en intégrant la réaction émotionnelle que l'arrivée de l'informatique et de ces nouvelles manières de communiquer provoque chez les professionnels. Béatrice Frankel.
Merci. Je suis particulièrement contente et impressionnée de faire cette communication en présence de Madame la ministre Taubira, qui est pour beaucoup d'entre nous vraiment une personnalité que nous aimons particulièrement. C'est mon cas, donc je suis vraiment très contente de vous rencontrer. Il y a quelques années, j'ai mené une enquête sur le travail des huissiers de justice. L'un des objectifs était de comprendre comment les projets de signature électronique étaient reçus, voire anticipés dans les études. Je rappelle que la première loi concernant la signature électronique est du 13 mars 2000, suivie d'un décret en 2001, qu'en 2005, un décret sur la signature électronique des actes d'huissier et de notaire est paru, et enfin, en 2008, le premier acte authentique électronique notarié a été réalisé. Pourquoi les huissiers ? Eh bien, en fait, la profession s'est informatisée très tôt, dans les années 80, et la Chambre nationale des huissiers était particulièrement impliquée dans l'avancée de la numérisation et de l'informatisation de ces professions juridiques et parajuridiques. Très favorables expériences. Le terrain semblait donc propice à mieux comprendre comment la signature électronique pouvait éventuellement s'installer. Au début de cette recherche, lors de mes premières rencontres avec les huissiers, j'ai fait un constat qui m'a laissé vraiment perplexe. Le temps passé à signer dans les études par chaque huissier était considérable, entre 3 heures et 1 heure et demie par jour. C'est ainsi que la question de la temporalité s'est posée. Que se passait-il exactement pendant ces 3 heures ? Quel était ce moment de la signature ? Il apparut très vite que la notion même de signature était à revoir. Geste professionnel, la signature n'est pas un simple signe graphique, ni un pur concept défini par la loi. C'est un acte accompli dans une situation définie dans le temps et dans un espace donné, impliquant des acteurs, l'huissier et ses collaborateurs, et des activités, bien sûr, des tâches à accomplir. Considérée du point de vue de l'huissier, la signature est un moment à part dans la journée. C'est une routine, mais une routine consacrée précisément à ce qui échappe à la routine. C'est un moment décisif, car l'huissier effectue alors un acte d'écriture signé qu'il est seul habilité à faire et qui le définit en tant qu'officier ministériel. Puisqu'en signant, l'huissier confère à certains écrits l'authenticité juridique. Observer le moment de la signature, c'est donc à la fois décrire un acte banal, chacun peut signer, mais c'est aussi, lorsqu'on le saisit dans son effectuation par un professionnel, mesurer une toute autre dimension de cet acte. Et notamment, l'expérience du temps, le type de temporalité et de croisement de temporalité qu'il comporte, dans le cas, en tous les cas, des huissiers de justice. La signature est un moment où l'huissier éprouve et saisit le temps dans ses multiples dimensions, dans sa durée, sa répétition, dans sa signification sociale et également dans ses grands rythmes annuels. C'est une activité quotidienne, je l'ai dit, il n'y a pas un jour de l'année sans que l'huissier ne doive être présent pour signer ses actes. C'est aussi une activité affectée par un rythme mensuel, pour des raisons que tout le monde comprend. Le 15 du mois, nous disent les huissiers, on a évidemment plus de dossiers que le 7 ou le 22. Enfin, c'est une activité qui se cale sur des saisons. Au mois d'août, il y a peu d'actes, alors qu'au mois de novembre, il y en a beaucoup plus. Au mois de mai, moins de travail. En juillet, énormément de travail parce que beaucoup de clients se dépêchent de tout vider, nous disent les huissiers, avant de partir en vacances. Le moment de la signature est donc en phase avec les grands cycles de l'activité sociale. La trame calendaire dans laquelle il s'insinue introduit dans l'univers bureaucrate des études le grand souffle des départs en vacances, le vide estival et chaque jour des marées de papier plus ou moins hautes. Considéré du point de vue de l'écoulement du temps dans une journée de travail, le moment de la signature est celui du passage. On signe au crépuscule ou on signe à l'aube lorsque l'huissier fait la fermeture de son étude. Ce temps est décrit comme un moment qui s'oppose à l'activité courante. Le soir, lorsque la production des écrits est terminée, les tournées de saisie et les déplacements en ville sont achevés, lorsque le personnel est rentré chez lui, il ne reste à l'étude que l'huissier et son ou ses collaborateurs. C'est souvent entre pairs que l'on signe. On peut alors discuter entre égaux au sujet d'un acte ou d'un dossier. C'est un moment où l'huissier est aussi accessible au coup de téléphone des avocats qui savent où le trouver. Il y a visiblement un certain plaisir dans ce moment de relâche qui n'est pas encore un moment de repos. Ces éléments sensibles forment un premier cadre pour comprendre l'acte de signer. Mais le décor étant posé, il faut reconnaître que la signature est une véritable séquence d'action. Les séquences de signature, dont certaines, je l'ai dit, durent 3 heures, sont des moments de lecture, de récapitulation, d'évaluation, de vérification. L'enchevêtrement de ces actions fait apparaître un aspect caché de la signature, qui est finalement une sorte de méthode de travail. Plusieurs actions sont décisives, je retiendrai ici essentiellement celle de la lecture des actes, on en parlait il n'y a pas si longtemps, qu'effectue l'huissier, et je laisserai de côté la mobilisation de sa mémoire, phase importante, ainsi que le type d'engagement qu'il réalise en signant. La lecture des actes est un moment de contrôle, je l'ai dit, qui suppose, dans toute l'histoire du métier et de nombreux métiers juridiques, une lecture extrêmement attentive du texte, un regard, bien sûr, sur les corrections à y apporter et toute une série de vérifications. En fait, c'est exactement ce procédé de lecture qui, pour les huissiers, est la signature. C'est-à-dire que la signature est profondément liée à cette affaire de contrôle, à ce moment de contrôle. Si bien que la signature est tout autant un signe de validation que l'apposition d'une marque de finition assurant d'une certaine façon la qualité d'un produit. Or, cette lecture de contrôle, qui a ses lettres de noblesse fort anciennes, a connu ces dernières années des évolutions importantes du fait de l'informatisation des études. De nouvelles façons de contrôler les actes sont apparues, liées à l'augmentation très sensible du nombre d'actes produits. L'ordinateur, bien sûr, automatise l'écriture des textes. Les actes sortent sans erreur, sans faute de frappe. L'acte est choisi par l'huissier au sein d'une bibliothèque intégrée. Il n'y a donc plus à regarder de près ce qui est écrit. Paradoxalement, s'il y a plus d'actes à contrôler, il y a moins à contrôler dans chaque acte. Ces changements favorisent et rendent nécessaire, en fait, une lecture très rapide et de plus en plus parcellaire. On sait, disent les huissiers, où sont les points importants. La date, les requérants, le titre, le montant, la voie de recours, et voilà. Cette lecture d'écrémage ultra rapide exercée sur les actes n'est pas sans risque. Et nombre d'huissiers, la plupart des huissiers, je dirais même tous les huissiers, chez tous les huissiers pointent une certaine inquiétude. C'est donc une lecture rapide d'écrémage, mais une lecture inquiète qui s'est installée dans les études d'huissier. On ne peut pas tout vérifier, dit un huissier, c'est impossible. Il y a trop d'actes qui sont tous les soirs à regarder. En même temps, nous dit un autre, on est de plus en plus vigilant, parce qu'on est de plus en plus mis en cause dans les affaires. On voit alors que le pouvoir de la signature de l'huissier peut être retourné contre lui. Face au nombre important des actes, l'exercice de la vigilance s'impose plus que jamais, tout en devenant quasiment inaccessible. C'est pourquoi la signature en aveugle, qui semblerait être tout à fait le contraire de ce qui est recherché, la signature en aveugle est de plus en plus pratiquée. L'huissier n'a pas le temps de lire, il n'a pas le temps de regarder, il signe au fur et à mesure, en faisant, comme il dit, confiance à ceux qui ont travaillé pour lui, à son étude. Derrière la façade de l'activité routinière, le moment de la signature est donc tissé d'injonctions contradictoires. Il intègre une certaine prise de risque constante, car chaque signature peut alors apparaître comme une sorte de petit pari minuscule. « Je croise les doigts », nous dit un huissier, « j'espère que tout a été bien fait ». Une étape supplémentaire, plus cachée, est franchie dans les études les plus actives. Vous avez des gars, seuls, qui font 30 à 40 000 actes par an. Je vous demande, comment font-ils pour signer ? Voilà, point, nous dit un huissier. La réponse à cette question nous est donnée indirectement. Moi, je signe en vrai, c'est pas du scanner. Les pratiques de la signature sont donc déjà en train de changer. Elles ne sont plus autographes, comme elles le devraient. Condamnées par la majorité des huissiers, ces pratiques illégales réduisent le moment de la signature à une sorte de production d'un acte qui est précisément un acte autre. Je reprends la citation de Derrida que vous proposiez. Un acte qui n'est plus l'affaire, l'acte produit réellement par l'huissier lui-même et contrôlé. Tous ces éléments qui concernent donc cette espèce de tension extrêmement forte qui existe entre l'augmentation, qui est une chose bénéfique évidemment, du nombre d'actes et la difficulté à en assurer la vérification, s'inscrit dans une situation beaucoup plus large qui n'est pas seulement réduite au moment de la signature. Je voudrais terminer sur ce point, et qui implique encore d'autres temporalités. En fait, l'histoire récente de l'informatisation doit être évoquée pour comprendre ce qui se passe. Le processus, en effet, de l'informatisation dans les études est à double tranchant, et sa perception est ambivalente du point de vue des huissiers. Bénéfique, en effet, car sur le plan économique et organisationnel, l'augmentation du nombre d'actes est tout à fait appréciée, mais aussi perte de maîtrise, contrôle accru par l'informaticien et dépendance très grande vis-à-vis de l'informatique. Ceci, cette espèce de perte de contrôle beaucoup plus général sur le travail qu'effectue l'huissier, touche en fait à un aspect du travail qu'a très bien décrit un sociologue qui a fait une sorte d'ethnographie cognitive, Schutz, qui parle du fait que tout en travaillant, au moment où nous réalisons des actions qui sont définies de façon extrêmement précise, en fait, nous sommes aussi constamment projetés en avant vers le futur de nos actions. C'est évidemment le cas de l'huissier qui sait pertinemment, lorsqu'il signe, comme je l'ai dit, qu'il ne signe plus d'ailleurs, qu'il prend un risque. Mais c'est plus généralement le cas aussi de la profession elle-même qui voit désormais toute une série de phases d'écriture, notamment celle des actes, qui n'est pas seulement dévolue à la machine, mais qui est même oubliée, qui ne s'enseigne plus, et nombre d'huissiers reconnaissent que leurs clercs ne savent plus écrire des actes. Il y a donc là un moment où les temporalités qui affectent ce métier sont non seulement enchevêtrées, mais sont aussi particulièrement brouillées. Car pour nombre d'huissiers, que ce soit dans des moments précis comme celui de la signature, ou lorsqu'ils considèrent leur activité dans un futur plus ou moins proche ou lointain, beaucoup d'huissiers évoquent une forme de fuite en avant. Il y a là une expression qui revient très souvent, et c'est sur ce point que je terminerai. Il y a donc bien à la fois une augmentation, l'accélération, comme on l'a dit, mais aussi une sorte de déprise des savoirs, déprise des savoir-faire, qui crée, dans tous les moments de présence de l'huissier, dans tout le présent du travail de l'huissier, de profonds ébranlements. Merci.
Merci beaucoup pour cette exposition, sur la signature qui je crois, parle au-delà des huissiers à beaucoup de professionnels qui signent tous les jours, à commencer par la garde des Sceaux, qui signe beaucoup, j'imagine. C'est pas un moment de relâche. Bon, en tout cas, voilà un exemple de ce que c'est qu'une recherche attentive au travail quotidien et qui nous montre aussi l'importance à accorder à la relation, nouvelle relation au travail qu'introduisent les machines. Et donc maintenant, je vais donner la parole donc à Soraya Amrani-Mekki, qui a rendu un rapport important récemment intitulé « Mieux administrer la justice en interne et dans les pays du Conseil de l'Europe pour mieux juger ». Donc on voit cette association, rien que dans le titre, entre le temps, mais aussi l'accélération, mais aussi la qualité.
Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, je crois qu'on dit généralement qu'il faut légiférer en tremblant. Je crois qu'aujourd'hui, je vais parler en tremblant. Mais alors, parce que je dois présenter effectivement une recherche extrêmement conséquente. Je dis tout de suite que nous étions une vingtaine de personnes. Recherche qui s'intitulait MAGIS, qui a porté effectivement sur l'administration de la justice entre 2009 et 2011, et qui est une recherche qui est doublement de droit comparé. De ce qu'on appelle aujourd'hui le droit comparé interne, c'est-à-dire qu'il s'agissait de comparer la procédure civile, pénale et administrative, mais également de droit comparé au sens plus classique, puisque cette recherche a analysé trois pays, la France évidemment, l'Angleterre et les Pays-Bas. Alors pourquoi ce choix ? Mais tout simplement parce qu'on a repris la distinction qui avait été faite par un sociologue présentait ces trois pays selon trois cultures différentes. L'Angleterre, une culture du contrat, des objectifs, on les respecte ou pas à une sanction. Les Pays-Bas, et on l'a très largement vérifié, une culture du consensus, c'est-à-dire des méthodes de travail et des objectifs fixés par consensus, mais des méthodes d'évaluation extrêmement fines qui y sont assignées. Et la France, qui est dite de culture de l'honneur. Et je trouve ça très bien quand même, culture de l'honneur, c'est-à-dire une décision au niveau central, puis ensuite une application et une adaptation par les acteurs concrets, mais avec le souci de l'honneur et du travail bien fait. Ça, c'est pour commencer de manière extrêmement optimiste. Alors, malgré ces trois cultures différentes, on se rend compte en réalité que, surtout depuis les années 90, on a bien une culture dominante qui est évidemment uniforme dans les différents États de l'Union européenne, qui est la culture de la performance, la culture de l'efficacité. Et effectivement, quand on parle de performance ou d'efficacité, on l'associe souvent à l'accélération du temps judiciaire. Alors, très rapidement, parce que je n'ai que 10 minutes, évidemment en France avec la LOLF depuis 2000, aux Pays-Bas 2001, acte cadre qui insiste sur une rationalisation budgétaire et des budgets par rapport à l'efficacité prouvée, et en Grande-Bretagne, de la même façon, des enveloppes globales par rapport aux objectifs assignés et à leur réalisation. Alors on est là dans une rhétorique de l'efficacité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'efficacité. Est efficace ce qui produit l'effet attendu. Mais alors, quel est l'effet ? Et effectivement, souvent, l'effet, c'est l'accélération. Et on oublie, et mon collègue Christian Moulana l'a indiqué tout à l'heure, on oublie l'aspect qualité. Alors on peut nous rétorquer que l'accélération est en soi une qualité, certes. Mais on peut avoir aussi une démarche plus large de qualité, et c'est vrai qu'on a observé dans cette étude qu'en France, on était un petit peu en retard avec la Grande-Bretagne par rapport aux Pays-Bas, qui, depuis les années 90, ont développé des démarches qualité et y associent des éléments extrêmement intéressants, notamment des sondages d'opinion. Alors, on va même sonder des témoins, des victimes, pour savoir quelle a été leur perception de la justice et du temps de la justice. Alors, le GIP a fait quelques études ponctuelle, et c'est très bien, bravo Georges, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce côté systématique en France, et c'est évidemment extrêmement regrettable parce que ça donne une perception du temps qui est parfois déformée. Si on interroge le vulgum pecus dans la rue, on va dire évidemment la justice est beaucoup trop longue, mais en réalité ce sont souvent des a priori. Et j'en prendrai un seul exemple. On dit généralement que la justice est trop lente quand on voit qu'une procédure dure en moyenne 8 à 9 mois devant le TGI. Quand le temps de la procédure est contractualisé, finalement on se retrouve avec les mêmes durées, c'est-à-dire que l'accord des parties arrive à la même durée. Le problème n'est pas tant la durée en elle-même que souvent la prévisibilité de cette durée, la manière de s'approprier le temps de la procédure. Alors, sur la recherche Smingis, qui est vraiment énorme, et je vous convie à aller la lire puisqu'elle est en ligne, l'idée était de travailler sur l'administration de la justice, c'est-à-dire finalement l'organisation, le fonctionnement de la justice et ses liens avec la décision elle-même. Et donc distinguer d'une part le service public de la justice et d'autre part l'autorité constitutionnelle qui rend des décisions. Les distinguer, mais précisément pour faire le lien et pour montrer comment la décision de justice peut être influencée par son environnement et par l'administration de la justice. Et cette étude a été menée sur vraiment des thèmes extrêmement variés, mais puisque je n'ai que peu de temps, je vais simplement vous présenter un thème particulièrement, qui est celui, pour rester dans la ligne, de la dématérialisation et du recours aux nouvelles technologies. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les nouvelles technologies sont parées de toutes les vertus, enfin, pendant longtemps ont été parées de toutes les vertus, mais que contrairement à ce qu'on a pu penser au départ, ce n'est pas un outil neutre, et que si cet outil doit servir la justice, comme on dit, elle ne doit pas la servir. La difficulté ici, c'est que pendant longtemps, on a développé les nouvelles technologies qui vont dans le sens d'une modernisation. C'est très bien d'être moderne, on modernise les méthodes de travail. Une manière de légitimer la justice, notamment dans son accessibilité aux justiciables. On parle de proximité virtuelle et effectivement, le justiciable peut avoir des informations, les points info-vision, ce genre de choses. Tous les éléments qui permettent de simplifier l'accès de la justice par les nouvelles technologies, tout ça est évidemment extrêmement favorable. L'accélération du temps que cela permet, évidemment, est favorable. Accélération étant égale à économie. Économie de papier, d'encre, économie de déplacement. Pas simplement pour les magistrats, mais également pour les avocats qui ne vont pas attendre des heures pour des audiences de mise en état. Alors tout cela va évidemment se développer, se déployer, notamment pour le travail du magistrat. Et on a vu se développer tout un tas de systèmes d'aide à la réflexion, d'aide à la décision, mais même d'aide à la rédaction. Alors, je rassure vous, je ne suis pas pour le retour à la plume d'oie, mais on a effectivement des aspects extrêmement favorables dans le fait d'avoir accès à énormément de jurisprudence, d'avoir des modèles de décision, de pouvoir consulter sur ordinateur très rapidement le précédent travail d'un juge rapporteur. Tout cela est extrêmement efficace. La difficulté qui se pose est de savoir si ça ne va pas à l'encontre d'une certaine qualité, et j'irai même plus loin, et je serai assez schématique pour être rapide, à l'encontre de l'indépendance des juges. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, quand on parlait d'indépendance des juges et des nouvelles technologies, on me regardait avec des gros yeux et on disait « mais je ne vois pas vraiment, est-ce que la ministre envoie des mails aux juges ? Est-ce que c'est ça les nouvelles technologies qui mettent en cause l'indépendance des juges ? Absolument pas, évidemment. Les choses sont plus insidieuses. On se rend compte que les nouvelles technologies permettent de relire les garanties du procès équitable, le droit d'être entendu, l'indépendance et l'impartialité, qui peuvent être lues maintenant de manière beaucoup plus dynamique. Si je prends, on en a parlé tout à l'heure, le droit d'être entendu. Lorsqu'on est en visioconférence, est-ce que le droit d'être entendu est parfaitement respecté ? Alors certes, on est entendu à distance. Est-ce que le sentiment d'avoir été entendu l'est nécessairement ? Ce qui fait qu'en France, on a développé le principe de présence en se calquant sur les procédures ibéro-américaines, le principio d'immediation, avec la nécessité effectivement d'avoir un contact physique avec son juge. Pour l'indépendance, on a plusieurs difficultés. Première chose, c'est que le recours aux nouvelles technologies permet évidemment un contrôle de l'activité des magistrats, un contrôle informatique du rendement des magistrats. Le problème, c'est que ce rendement étant aussi un critère d'évaluation collective de la juridiction, et lorsqu'on y associe des budgets alloués à la juridiction, je ne vais fâcher personne, mais je vais quand même citer la fameuse circulaire d'un autre gouvernement, la circulaire du 5 février 2009, qui a indiqué qu'il fallait atteindre un certain taux de recours aux visioconférences pour économiser des extractions de détenus en prison, et que si on n'économisait pas à l'année N+1, on avait des budgets rabotés. Effectivement, ça peut poser des difficultés. Là où c'est plus intéressant, parce que beaucoup plus insidieux, c'est vraiment tout ce qui est système de recours à l'aide à la décision et à la réflexion. J'en veux pour preuve, par exemple, le simple accès pour la Cour de cassation au rapport des conseillers à la Cour de cassation précédent. C'est très bien que ça accélère le travail. On a tout de suite toute la jurisprudence. Les choses sont présentées. Effectivement, pourquoi être contre ? C'est un élément d'information extrêmement intéressant. Mais le fait, en première initiative, de lire le précédent rapport d'un conseiller rapporteur sur une affaire similaire. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'assécher la réflexion ou de la barrer ou de l'enserrer dans une trame ? Alors, en réalité, effectivement, tout ça est extrêmement complexe. On va dire, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne veut pas de loi. Je suis évidemment favorable aux nouvelles technologies. Mais simplement, la recherche magie sur les nouvelles technologies a alerté pour dire qu'il fallait peut-être réfléchir à la manière de les utiliser. Mais vous savez, c'est comme un professeur de droit. Professeur de droit qui rédige un commentaire d'arrêt, s'il commence à lire tous les commentaires qui ont déjà été rédigés, son commentaire sera extrêmement pauvre. Ce sera une espèce de synthèse de ce qui a été fait. Alors que s'il commence par réfléchir et qu'ensuite il lit le reste pour l'enrichir, c'est beaucoup mieux. C'est un peu la même idée. Et c'est la raison pour laquelle on observe que depuis la recherche Magis, on peut voir qu'on a eu plusieurs textes officiels sur ce rapport des magistrats aux nouvelles technologies dans l'accélération de leur travail, tout en gardant le respect des garanties minimales j'espère même maximale, du procès équitable. On a eu l'avis numéro 14 du Conseil consultatif des juges européens. On a eu un guide des bonnes pratiques, une espèce de charte des bonnes pratiques vis-à-vis des juges et de l'usage des nouvelles technologies, rédigé par les premiers présidents de cours d'appel en Europe. Parce que quand on regarde les textes internes, on a certes le recueil de déontologie des magistrats, l'article E20, si ma mémoire est bonne, mais qui alerte les magistrats sur le fait que l'usage des nouvelles technologies ne doit pas diminuer les droits des parties. Et les juges eux-mêmes ne sont pas concernés par ce texte. Donc cette recherche magiste a mis en lien, je suis encore dans les temps, a mis en lien... Une minute, ça suffira. Je vais faire mon avocat, vous me donnez une minute, 30 secondes, vous suffira à vous convaincre. Donc voilà, en fait, on a mis en lien ces différents éléments avec une comparaison. Je vais finir quand même par un cocorico pour quand même saluer la présence de la ministre. On a quand même remarqué dans une analyse comparée que la France était bien en avance sur l'usage des nouvelles technologies, dans la mise en place, dans la réflexion aussi sur les nouvelles technologies. Et je dois dire que lorsqu'on s'est développé, lorsqu'on s'est déplacé notamment aux Pays-Bas, toutes les questions que nous, universitaires, nous nous posions sur est-ce que les nouvelles technologies respectent l'indépendance, la publicité, toutes les garanties du procès équitable, elles n'avaient même pas effleuré l'esprit des magistrats, puisqu'ils sont dans une autre démarche, une démarche pragmatique. Ils mettent en place et leur démarche, c'est « what works ?» Qu'est-ce qui marche ? On met en place, si ça fonctionne, c'est que c'est très bien et on se posera les questions au moment où la question se posera. On est en France, évidemment, dans une démarche différente, mais on aura le temps de la discussion qui permettra d'y revenir. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Vous ne serez pas venu.
J'en profite pour merci pour cet éclairage européen qui permet de nous regarder de l'extérieur en quelque sorte, et nous avons la chance d'avoir parmi nous l'ancienne secrétaire générale du ministère de la Justice néerlandais, donc qui pourra réagir si elle estime que ainsi que Ton Hall, qui est le doyen de la faculté d'Utrecht, et une professeure de l'université de Valence en Espagne. Donc voilà, nous pourrons débattre avec elle ou avec eux, mais nous continuons maintenant ce dialogue en donnant la parole à l'inspecteur général sur les réactions que lui inspire et la recherche en général dans la définition de sa mission. Merci.
Merci. Je veux dire que je suis particulièrement satisfait de l'initiative qui a été prise de rencontrer les chercheurs qui travaillent sur le domaine judiciaire. Parce qu'il se trouve que l'inspection générale, depuis peu de temps, s'intéresse plus particulièrement à certains travaux de chercheurs et a pris l'initiative à deux reprises, en 2013 et plus récemment, il y a quelques semaines, de rencontrer des équipes de chercheurs. Le premier, l'équipe de Jean Danet, qui était intervenu à la conférence de consensus. Et sa communication a tellement interpellé, comme on dit quelque part, l'inspection générale. L'inspection générale a souhaité rencontrer M. Danet, que nous avons eu pendant une demi-journée chez nous, pour approfondir ce qu'il avait pu observer dans le travail des parquets sur l'orientation des procédures. Et puis, plus récemment, et à la suite d'ailleurs d'une initiative du service qui avait proposé au GIP Recherche Droit et Justice un thème sur comment concilier qualité et performance, Nous avons rencontré M. Gelland et son équipe, que je salue dans cette salle, qui a accepté de venir nous voir, et on a pu confronter déjà l'état de ses travaux. Car aussi, la logique de performance est omniprésente, et vous l'avez parfaitement dit, dans le fonctionnement judiciaire. Le service que j'ai l'honneur de diriger s'interroge vivement sur le maintien de la qualité judiciaire, de la production judiciaire, alors qu'on est inscrit très délibérément et très clairement, lorsque nous observons les fonctionnements, les organisations, dans une logique de performance des juridictions et des magistrats individuellement. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, les liens avec les chercheurs, pour nous, sont très importants, puisqu'on est aussi un service d'évaluation et un petit peu de recherche lorsqu'on intervient dans des cadres divers. D'abord, on intervient dans le cadre d'une mission permanente de contrôle de fonctionnement des juridictions, ce qui nous permet d'observer les organisations et de voir si elles répondent à l'objectif qui leur est assigné d'une production judiciaire dans un délai raisonnable. Question de la qualité, j'y reviendrai, parce que nous sommes à cet égard un peu gênés, je dirais, dans notre mandat. Et puis, la deuxième façon d'aborder ces problèmes de production judiciaire ou de la qualité judiciaire, c'est lorsqu'on est saisi de missions thématiques où la ministre souhaite être renseignée sur le fonctionnement ou le bon fonctionnement d'un processus ou d'un dispositif judiciaire. Et vous n'êtes pas sans savoir, puisque la ministre y a fait allusion il y a un instant, que nous étudions actuellement, et j'ai bon espoir que ça va sortir dans le courant du mois de juin, le traitement en temps réel par les parquets en dressant un état des lieux approfondi de ce dispositif et en y apportant un certain nombre, peut-être, de correctifs. En tout cas, nous serons amenés à faire un certain nombre de propositions. Je sais que ce travail est très attendu et on sera en écho avec les travaux de notre premier intervenant. Voilà dans quel cadre nous intervenons. Nous intervenons aussi, et c'est pas vain de le dire, dans le cadre de la déontologie des magistrats. Et j'y reviendrai dans un instant, parce que l'accélération du temps judiciaire n'est pas sans interroger les obligations déontologiques des magistrats et les conditions de travail des magistrats. Et ça, c'est un domaine qui sera sans doute à approfondir et à explorer pour des chercheurs. Alors, l'accélération du temps judiciaire, elle interroge d'abord les organisations. Et la mission que j'ai, c'est de faire en sorte que le service puisse, par une approche de prise de risque, en étudiant les risques de non-production ou de dysfonctionnement de l'institution judiciaire, comment les responsables des structures judiciaires répondent à cette demande d'accélération ou en tout cas de production judiciaire. À la fois, ça interroge les méthodes de management, les méthodes de pilotage, on s'intéresse de très près à cela. Ça interroge les outils mis à la disposition de ceux qui ont la responsabilité du pilotage, c'est-à-dire tout ce qui est tableau de suivi, outils de tableau de bord, etc., et l'outil statistique du ministère, que nous interpellons très régulièrement, bien évidemment. Et si ça interroge les organisations, nous adoptons une démarche extrêmement pratique, en allant au plus près des juridictions. Ce qu'on peut observer, et les chercheurs le savent bien qui travaillent dans les juridictions, c'est l'aspect très précaire des organisations. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'organisations et qu'il n'y a pas véritablement de modélisation. Et d'ailleurs, le travail que nous menons actuellement sur le traitement en temps réel pourra démontrer qu'en réalité, les juridictions et les parquets ont été appelés à se débrouiller un petit peu tout seuls. Il y avait une augmentation importante du volume des contentieux, avec une exigence très forte exprimée de la réponse judiciaire, de sa diversification, Et il faut se souvenir, par exemple, que si les délégués du procureur existent aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, on ne parvenait pas à traiter un certain nombre d'affaires au niveau des parquets et au niveau des juridictions. Et pour avoir revu récemment, dans le cadre de cette étude, Marc Moinard, qui a été un peu l'inventeur du traitement en temps réel, il nous a dit très simplement que lorsqu'il était procureur de Bobigny, eh bien, les affaires étaient enquistées au tribunal pour enfants, elles étaient enquistées à l'audiencement du tribunal correctionnel. Il était nécessaire quand même que l'institution judiciaire réponde à une attente. Ce qui est interrogé dans un deuxième temps, et je le vois encore aujourd'hui, la qualité de la protection en aval, en amont, c'est-à-dire la qualité de la protection policière. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qu'une autre inspection générale, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale de la police nationale, s'intéressait à la qualité des enquêtes de police, qui est souvent interrogée par les magistrats qui prétendent à la mauvaise qualité d'un certain nombre d'affaires, ce qui met en difficulté, d'ailleurs, la pertinence parfois du traitement en temps réel. On voit que les interactions sont très importantes à cet égard. Dans une approche qui est purement structurelle, c'est-à-dire approche juridictionnelle, on va examiner les organisations, je le disais un instant, et les instruments de pilotage. Et on va faire un certain nombre de recommandations aux chefs de juridiction, mais aussi aux différents services. Ce qu'on observe à cet égard est assez intéressant. D'abord, c'est la diversité, je l'ai dit à l'instant. C'est surtout le cloisonnement important entre les services et l'insuffisance des échanges transversaux entre eux, en tout cas entre ceux qui dépendent les uns des autres. Vous parliez de chaîne de production, de chaîne pénale, avec à l'inverse évidemment le travail à la chaîne. J'ai bien aimé l'expression parce que c'est parfois un peu ça. Eh bien, on observe que ce soit dans les services pénaux ou dans les services civils, les approches transversales, les partages d'informations, le montage d'outils transversaux est assez pauvre. Et nous sommes là dans les recommandations que nous faisons souvent de faire en sorte qu'un certain nombre de réunions de services puissent permettre de dégeler ces cloisonnements et de faire en sorte que la fluidité de la production judiciaire soit de meilleure qualité. La deuxième chose qu'on observe aussi, c'est une méconnaissance assez forte des acteurs eux-mêmes, de ce qui se passe autour d'eux, ce qui fait allusion à ce que je viens de dire, mais aussi de ce qu'ils font eux-mêmes. Et c'est là que l'œil extérieur de l'inspection générale ou des chercheurs est extrêmement utile. Car on s'aperçoit que quand l'inspection déclenche un contrôle de fonctionnement sur une juridiction, c'est un peu la panique. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? On a toujours un peu cette casquette de gendarme qui ressort. Mais à l'inverse, lorsque l'opération est terminée, on a des retours assez satisfaisants de la part de juridictions qui disent « Vous nous avez appris des choses sur nos propres fonctionnements ». Donc il faut aussi travailler là aussi sur le retour sur soi-même des acteurs qui n'ont pas le temps de le faire peut-être eux-mêmes. Et puis, j'y ai fait allusion à l'instant, c'est la nécessité de construire des outils de pilotage qui soient utiles, efficaces, qui ne soient pas trop nombreux, mais qui soient pertinents et qui soient assez homogènes entre les juridictions pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse comparer les fonctionnements. Alors, la limite de ces contrôles organisationnels, elle est dans l'évaluation de la qualité. Quelle qualité de la production judiciaire à l'heure actuelle? Cette dimension de la qualité, l'inspection générale l'appréhende, bien évidemment, à travers ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire que, eh bien, une réponse judiciaire rapide est un facteur de qualité. C'est à peu près la seule version qu'on peut avoir de la qualité quand on fait ce travail très administratif. Ce qui nous interroge quand même, en revanche, c'est comment peut-on améliorer nos méthodes d'évaluation par des indicateurs de qualité. C'est l'objet de la recherche qui est menée par M. Jolan et son équipe. mais aussi de voir quelles sont à l'heure actuelle les organisations qui contribuent à la qualité. Je prends un exemple tout simple. C'est le problème de la collégialité. On va être amené à recommander à un certain nombre, dans un certain nombre de juridictions, de dire mais pourquoi vous n'utilisiez pas davantage le juge rapporteur ou le juge unique ? Parce qu'il y a de la production qui est là, il faut la sortir dans des délais raisonnables. Et puis on s'aperçoit que la collégialité est en train de ressurgir, à juste titre. Donc la solution, ça va être quoi ? Ça va être de faire des choix prioritaires sur ce qu'on va laisser en collégialité et sur ce qu'on peut sortir en juge rapporteur ou en juge unique. Et c'est là que les acteurs judiciaires ont un travail fondamental pour réfléchir sur leurs propres pratiques et essayer de trouver un équilibre entre la nécessité de produire, mais de produire bien. Le deuxième écueil que nous avons dans nos évaluations, c'est évidemment la sanctuarisation évidemment de l'acte juridictionnel. On m'interrogeait récemment sur la possibilité de me confier une mission sur le phénomène de la correctionnalisation. J'ai mis en garde évidemment sur cette mission qui nous obligeait à aller sur l'acte de correctionnalisation. Et j'ai renvoyé ça à un travail de chercheur a posteriori, sur les phénomènes de correctionnalisation qui sont fondamentaux, à la fois dans le fonctionnement d'institutions, mais aussi dans la satisfaction qu'on peut apporter à la réponse pénale judiciaire. Et enfin, c'est peut-être quelque chose qui est trop oublié, c'est les conséquences, je l'annonçais au début, les interrogations déontologiques des magistrats. Les collègues sont soumis à une forte pression et quand on met en contrepoint et qu'on examine les décisions du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire, qui aussi est une matière à laquelle on s'intéresse évidemment, on s'aperçoit que la notion d'insuffisance professionnelle doit être appréhendée avec beaucoup, beaucoup d'attention et contextualisée dans les organisations. Il n'y a pas de schéma dans ce domaine-là. Même s'il y a des taux moyens de référence pour savoir ce qu'un juge peut produire comme décision par semaine ou par mois, les retards qui sont apportés au traitement judiciaire peuvent avoir des causes individuelles, c'est vrai, mais des causes individuelles qui peuvent parfois être dans l'excès de recherche de qualité. On a eu des cas où des juges, évidemment, dans des affaires relativement simples, pouvaient pouvoir produire des décisions de 10 pages, 12 pages, qu'ils revoyaient deux fois, trois fois, qu'ils redonnaient au greffe, etc., pour correction, et qui avaient des cabinets fortement encombrés. Ce souci de qualité doit atteindre aussi ses limites, peut-être, et c'est le critère de l'excès, le curseur de l'excès, qui doit être sans doute une règle, mais on a, vous y avez fait allusion, dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats, un certain nombre de références aux délais auxquels sont soumis les magistrats. Et enfin, et ce sera le dernier point, mais ô combien important, qui émerge depuis plusieurs mois maintenant, c'est les phénomènes de souffrance au travail, comme on nous le dit, et non de bien-être au travail. Et Dieu sait si je suis amené très souvent à intervenir dans un certain nombre d'enceintes, où je dis notamment à des fonctionnaires de justice, essayez de rechercher autour de vous à partager le bien-être au travail. Or, on sait que la pression judiciaire, de la protection judiciaire et les organisations peuvent être source de souffrance, de difficultés individuelles, mais aussi collectives. Et c'est tout un champ qui s'ouvre pour nous, puisque vous savez que dans notre service, on a des inspecteurs santé et sécurité au travail et le séminaire que nous avons eu cette semaine de l'inspection générale avec notamment ses personnels a montré combien les convergences sont fortes dans ce domaine. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Et je donne la parole sans plus tarder pour 10 minutes au directeur des services judiciaires.
Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible et le plus peut-être essayer de répondre à une question qui est assez simple, puisque notre débat d'aujourd'hui, c'est le rapport de la recherche et de l'action, notamment en matière judiciaire, essayer de donner quelques pistes sur ce sujet. D'abord, quand j'ai commencé à travailler ce sujet, il y a une chose qui m'est venue en premier, c'est de rechercher la thématique de l'accélération dans notre discours judiciaire. Et ça vient assez naturellement. Quand vous écoutez quelques magistrats parler entre eux, ils vous parlent tout de suite de traitement en temps réel, vous en avez parlé, de comparution, c'est toujours immédiate, les comparutions. Le référé, il est toujours d'heure à heure, ou peut-être d'heure à heure. Et pour les mineurs, la comparution est à délai rapproché. Donc on voit bien que la terminologie judiciaire, le rapport qu'il y a entre le temps, évidemment, et la décision est quelque chose qui est assez important. Deuxième remarque liminaire que je voulais faire, qui me vient à l'idée, c'est que quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit, mais, et vous l'avez tous les plus ou moins re-questionné, cette question, je me suis dit, mais pourquoi faudrait-il la prendre telle quelle, la question ? L'accélération du temps judiciaire. Il n'y a même pas de point d'exclamation ou de point d'interrogation. On prend comme acquis et comme définitivement décidé que ça doit être plus vite, encore plus vite et toujours plus vite. Alors vous l'avez questionné sur le débat qualité et sur le débat vitesse. Moi, je voudrais même poser la question même de la vitesse. Pourquoi se pose-t-on la question de la vitesse ? Parce que dans l'actualité pénale, comme dans l'actualité civile, enfin dans l'activité civile, si on s'arrête 2 minutes sur la réflexion, il faut se poser la question de savoir quel est le pourcentage, le nombre d'affaires, pour lesquelles il est absolument impératif qu'on ait une réponse immédiate. Impératif au sens de la réponse est un outil au maintien de l'ordre public, qui est gravement perturbé immédiatement, ou la réponse est une nécessité en termes de protection d'un droit qui va être violé ou qui va être mis en cause. Mais si on se pose cette question-là fondamentale et quand on relie notamment les dispositions du Code de procédure civile sur le référé et sur les raisons pour lesquelles, dans le vieux Code de procédure civile, on avait indiqué que l'on pouvait se passer du temps judiciaire pour aller à l'urgence, on se rend bien compte qu'on est totalement éloigné dans la réponse qu'on a. Le Code de procédure civile, il dit qu'on peut agir dans des procédures attentatoires au processus habituel de la temporalité lorsqu'on a un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Et je me pose même la question de savoir pourquoi on est sorti de ce cadre qui est un cadre qui a, à mon sens, fixé relativement bien l'intervention judiciaire d'urgence. Mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais je souhaitais quand même poser cette question. Posons-nous la question collectivement du temps. Est-ce qu'il doit être toujours aussi un facteur déterminant, et son accélération un facteur déterminant ? Ceux qui travaillent dans les structures administratives et d'organisation, quelles qu'elles soient, judiciaires ou administratives, ont pu constater qu'à partir d'un certain niveau de responsabilité, en 50 ans, on était passé de 60 mails par jour à 180. Et moi, la question que je voudrais vous poser sur le temps judiciaire, c'est faut-il prendre comme donnée acquise cette question du temps ? Mais ça, c'est un autre débat. Deuxième remarque liminaire assez rapide, c'est que ce débat est ancien. Dans la moitié, à peu près à la moitié du roman de Balzac, César Birotteau, qui est failli, se trouve confronté à une difficulté assez simple. Soit il accepte une procédure simplifiée, rapide, dans laquelle les fonctions de syndic et d'administrateur et représentants des créanciers sont fondues en une seule personne. On lui explique que ses intérêts vont être un peu martyrisés, mais qu'il sera débarrassé en 2 mois de la procédure de faillite et que donc le délai pour sortir de la faillite sera plus court. Ou il accepte qu'on fasse un peu de droit, et dans ce cas-là que le syndic et le représentant des créanciers ne soient pas le même, mais on lui dit ça va être plus long, tu vas peut-être récupérer un peu de sous, mais tu vas être exposé à l'opprobre public pendant beaucoup plus longtemps. César Birotteau, c'est quand même pas un roman ou une étude sociologique de l'année dernière. Et bien sûr, il opte pour la solution de la rapidité. Et il a conscience que ses droits seront moins respectés. C'est juste une boutade. Enfin, ça semble intéressant de montrer que, finalement, nos débats sont assez anciens. Premier sujet que je voudrais aborder rapidement, c'est de dire un petit peu quels sont nos besoins. Alors là, je parle non plus en tant que magistrat, mais de la position du gestionnaire de moyens de l'institution judiciaire, quels sont nos besoins et nos projets concrets, et où sommes-nous sur ces sujets actuellement liés à la recherche. Vous l'avez abordé, premier grand thème qui pour nous est un thème fondamental dans lequel nous sommes tout à fait engagés, c'est la dématérialisation des procédures, tant pénales que civiles, la mise en état électronique, dématérialisation qui se traduit par les échanges interapplicatifs avec la police et la gendarmerie, qui se traduisent par le fait que le document papier n'existe plus et que dans certaines juridictions, comme celle que j'ai pu visiter la semaine dernière, qui est expérimentale, il n'y a plus de papier en matière pénale et que le bureau d'ordre est géré de manière entièrement dématérialisée. Je ne fais pas le détail, mais contrairement à ce qu'on pense, j'étais heureux que vous le disiez tout à l'heure, sur l'enquête Magis, la France est beaucoup plus en avance qu'on peut le penser, est assez avancée sur ce sujet des dématérialisations. Moi, ce qui m'intéresse sur le sujet de la dématérialisation et ce que je constate actuellement, je ne dis pas qu'il faut freiner ce mécanisme, c'est qu'on a une vraie difficulté de positionnement de culture professionnelle. En allant visiter l'autre jour une juridiction expérimentale dans laquelle l'OPJ transmet l'intégralité de la procédure par voie dématérialisée au bureau d'ordre, je constate très directement que cette transmission, mécaniquement, automatiquement, change fondamentalement le rapport de l'OPJ au magistrat. Déjà que l'article 12 du Code de procédure pénale était un peu effacé, parfois on peut penser qu'il a totalement disparu. J'ai pu constater des pratiques consistant à envoyer par l'OPJ sa procédure dématérialisée sans même passer un coup de fil au parquetier. Le parquetier ouvre la procédure sur son intranet, son internet, lit et répond en donnant une date. Je dis oui à la dématérialisation, je dis qu'elle doit se faire certainement avec une vraie recherche sur les conséquences qu'elle a sur les rapports entre les gens. Je me rappelle à tous d'un procureur de la République qui me disait, avec qui j'ai longtemps travaillé pendant 6 ans, qui me disait « je raccroche au nez des OPJ lorsque je suis de permanence » et qu'il m'appelle et qu'il commence la phrase « bonjour Madame le procureur, je vous appelle pour une date », soi-disant pour avoir une date de ces OPJ. Je leur raccroche au nez parce que leur boulot, c'est pas de m'appeler pour une date, c'est de m'appeler pour me rendre compte d'une infraction pénale, pour m'en donner les éléments et pour que je puisse choisir le mode de poursuite. Et la question de la date doit être la fin de la conversation et pas le début. Eh bien, quand on dématérialise totalement la procédure, je suis pour, hein, je vois Anne Duclos-Grisier qui me regarde avec un regard noir en me disant « les économies que nous allons gager sont en train de disparaître ». Je suis totalement pour, et bien sûr il faut le faire, mais je dis « culture professionnelle ». Dématérialisation, c'est aussi les cultures professionnelles avec le rapport du greffier et du magistrat. Comment se construit autour de la dématérialisation la culture professionnelle? Je ne serai pas long là-dessus, mais je voulais vous l'indiquer. Deuxième sujet, au-delà de la dématérialisation, c'est la question de l'équipe et du travail en équipe entre des greffiers et des magistrats. Je pense qu'on a intérêt, dans cette optique, qui est une des grandes orientations que nous sommes en train de prendre, à ne pas avoir uniquement la rentabilité et uniquement l'accélération du traitement des procédures comme critère, mais d'avoir également dans ce travail en équipe une vraie réflexion sur le qualitatif. Je pense à l'équipe autour du parquetier. Et moi, je milite beaucoup pour que ces équipes qui sont en cours de création, que nous allons bientôt expérimenter, ne soient pas des équipes qui soient des équipes qui permettent au parquetier d'en faire toujours plus et d'augmenter son taux de poursuite ou son taux de réponse pénale, mais des équipes qui lui permettent de faire mieux, de mieux appréhender les procédures essentielles, de prendre plus, d'avoir plus de temps pour la réflexion juridique ou pour l'orientation des procédures. Rapport à l'usager. Rapport à l'usager sur les nouvelles technologies et sur le temps. Portalis, le ministre en a évoqué tout à l'heure, est en train de se développer. Je ne vais pas trop loin pour vous dire. Il y a un travail extrêmement intéressant qui a été fait autour de Portalis. Pour ceux qui ne connaissent pas Portalis, c'est le système que nous essayons de mettre en place, global et unifié, au service des usagers et des professionnels pour gérer les procédures civiles. Portalis a une vision extrêmement importante en termes de regard sur l'usager, de travail avec l'usager. Et tout à l'heure, madame, vous disiez, il y a une démarche de matérialisation qui est importante, c'est d'essayer de reconstruire les choses à l'envers et de ne pas prendre l'outil pour l'usage qu'on en fait. C'est exactement la démarche qu'avec le secrétariat général, auquel je rends hommage parce que nous avons fait un travail très important sur ce sujet, nous avons fait, c'est de renverser les choses sur Portalis et de ne pas dire nous sommes en train de créer un outil de gestion avec des, comme objectif la vitesse, l'accélération, la productivité, qui sera mis en place dans 10 ans, mais nous construisons dès maintenant un outil qui permet de se poser des questions immédiatement sur le rôle de chacun, l'accessibilité de l'usager à l'information, l'accessibilité des professionnels à l'information. Autour de ces notions de nouvelles, dans lesquelles on voit bien qu'il y a un impact très fort du temps judiciaire et un besoin qui s'exprime, je voudrais indiquer quand même que ma deuxième grande question, après celle de savoir s'il fallait continuer à avoir la vitesse comme critère, c'était de savoir de réfléchir de ce qu'on fait du temps qu'on gagne. Et si on en perd toujours.
C'est une grande question.
Je prends deux exemples qui me semblent assez illustrants sur le sujet. On dit beaucoup la dématérialisation des procédures civiles, l'accélération de la communication électronique entre les avocats et les tribunaux, c'est du temps gagné pour l'avocat qui ne vient plus au palais, temps gagné pour le greffier qui ne saisit pas lui-même dans l'ordinateur, temps gagné pour le juge qui n'a plus de mise en état. La seule chose que je voudrais me poser, c'est que j'aimerais bien faire une recherche pour connaître le temps perdu. C'est-à-dire, d'une part, qu'est-ce qui a été perdu dans le temps gagné? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il se passe des choses quand un avocat vient dans un palais de justice. Et deuxièmement, que font chacun des acteurs du temps qui a été gagné? Et la question fondamentale, c'est que nous inventons et nous mettons en place des outils qui améliorent le temps gagné, sans jamais se poser la question de savoir ce que nous avions fait de ce temps-là. On étudie l'impact du temps qu'on gagne, on n'étudie pas ce qu'on en a fait réellement. Et moi, depuis 30 ans, je n'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup gagné de temps dans mon travail. Et je ne sais pas très bien ce que j'ai fait de ce temps gagné. Juste, je pose cette question qui me semble, dans la piste des recherches, du travail qu'on peut avoir avec les chercheurs, une piste importante. Je voudrais également vous parler d'un autre sujet, c'est un peu en vrac, j'en suis désolé, qui est le bâtimentaire.
Le dernier.
Pardon ? Il faut que je fasse plus court. Le bâtimentaire, c'est un point extrêmement important pour nous. L'organisation d'une juridiction autour de ces nouvelles technologies, autour de cette notion de vitesse, c'est pour nous un point important. J'accélère. Oui, nous avons besoin de la recherche au service judiciaire, dans les juridictions. Oui, nous avons besoin de savoir comment répondre aux questions que je viens d'ébaucher, à tel point que je vous indique que la direction des services judiciaires travaille déjà avec des chercheurs et travaille déjà activement avec l'Institut des hautes études pour la justice. Et d'ailleurs, nous allons intensifier ce travail à tel point que je vais recruter dans mon équipe de direction un chercheur pour m'aider à répondre à ces questions et pour qu'on puisse, avec lui, réfléchir, notamment autour de comparaisons internationales, aux implications de ces questions. Très rapidement, je voudrais quand même ne pas terminer mon propos sans parler de benchmarking. Tout le monde l'a indiqué autour de la vitesse. Les critères d'évaluation des juridictions, monsieur l'inspecteur général, vous l'avez indiqué, sont beaucoup tournés sur plus de vitesse, des délais plus courts, des stocks qui baissent, des ratios d'efficience et d'efficacité. Je ne voudrais pas que la sous-direction de l'efficacité, de la modernisation de ma direction se désespère totalement. Oui, l'efficacité, il faut continuer à la mesurer. Oui, l'efficience, il faut continuer à la mesurer. Mais moi, j'ai deux réflexions par rapport à ce benchmarking et par rapport à ça. La première, qui me semble intéressante, c'est de savoir s'il n'y a pas d'autres indicateurs à mettre en place, non pas autour de la qualité. On n'a pas le temps d'en débattre parce que moi, je réfute un peu l'idée de la qualité comme ça. Je voudrais qu'on me dise un peu ce que c'est que la qualité. La qualité, il faut qu'on en discute. Mais une réflexion autour de la prise en charge de l'usager, qui est une donnée qui est totalement absente de notre benchmarking et de nos évaluations. Comment prend-on en charge l'usager? Est-ce que vous savez quel est le temps d'attente pour retirer par papier un dossier d'aide juridictionnelle à Paris.
C'est ça.
Je ne vous le donnerai pas, ceux qui veulent avoir la réponse n'ont qu'à me le demander. Je vous le dirai. Je ne le donnerai pas en public. Voilà. Ça, c'est un critère. Ça, c'est un critère intéressant, peut-être qui est peut-être aussi intéressant, sinon plus que les autres, et qui n'est pas intégré dans la gestion. Nous sommes en train, la direction des services judiciaires, et je voudrais ça aussi le soumettre à la recherche, de modifier les dialogues de gestion et l'organisation des dialogues que nous avons avec les juridictions pour passer d'indicateurs de ce type à d'autres types d'indicateurs et pour raisonner non plus en termes de bilan du passé, mais de projet pour l'avenir. Ce qui me semble plus intéressant, mais tout ceci est à revisiter. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui nous sont très importants et pour lesquels la recherche sera tout à fait importante. J'ai particulièrement apprécié, ça sera un peu ma conclusion, c'est pour illustrer le fait que la rencontre de l'opérationnel et du chercheur peut être une rencontre tout à fait productive, ce que vous avez dit, madame, sur les huissiers et la signature. Et d'un seul coup, vous mettez un allié très précieux. Je vais vous dire pourquoi, parce que je ne suis pas favorable à la signature électronique. Je suis même très opposé, pour des raisons à la fois fondamentales et pour des raisons qui sont structurelles. Je ne comprends pas pourquoi nous avons basculé de la signature manuelle à la signature électronique et pourquoi, de manière sémantique, on appelle signature ce qui est la signature électronique. Ce n'est absolument pas la même chose, ce n'est pas le même processus, ça ne requiert pas les mêmes concentrations et les mêmes prérequis et ça ne produit pas les mêmes effets. Et pourtant, on l'assimile. Et tant qu'on l'assimilera, je pense qu'on n'arrivera pas à faire progresser notre dématérialisation de manière correcte et de manière démocratique. Alors, je vous remercie. C'est un exemple concret que je vais donner parce que je vais lire votre étude sur les huissiers parce que ce que vous avez dit sur les signatures d'huissiers me sera certainement immédiatement, très concrètement, utile autour de notions comme des cartes agents, des genres de notions de cette nature. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et je pensais à propos de la que fait-on du temps libéré, et c'est une question qui est abordée par la recherche, notamment à partir de quel gain a été fait à partir de l'électroménager. Et ce que montre notamment dans son livre Armut Rosa, c'est qu'en réalité, l'accélération, c'est une intensification du rythme de vie. C'est beaucoup plus que le fait de gagner du temps. C'est cette intensification du rythme de travail qui est aussi problème et qui est aussi source, je crois, de pression, de souffrance, je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, merci beaucoup et je donne la parole pour sa dernière intervention à Marie-Suzanne Lokeo, qui est directrice d'affaires criminelles et des grâces.
Je vais donc accélérer... Voilà le temps, puisque les autres intervenants ont un peu mordu sur celui qui, normalement, m'était dédié. Mais en remarque liminaire, je voulais dire que la direction des affaires criminelles et des grâces a l'habitude de travailler avec les chercheurs, puisque peut-être un certain nombre d'entre eux sont invités à des petits déjeuners que nous organisons, en tout cas que le pôle études et évaluation de ma direction organise. Nous avons également des groupes de travail qui associent des chercheurs, dont deux qui nous sont particulièrement connus, je veux parler de M. Danier et de M. Mouana, qui ont orienté un certain nombre de leurs recherches sur la question pénale. Et j'allais dire que je fais un appel aussi à candidature, puisqu'il y a bien d'autres sujets qui mériteraient donc dans le champ pénal d'être explorés et exploités. Sur la question de l'accélération du temps judiciaire dans le domaine de compétences qui est le mien, c'est-à-dire l'élaboration de la norme pénale et la mise en œuvre d'une politique pénale définie par le politique, depuis 20 ans finalement, la demande du politique, elle a toujours été identique, c'est-à-dire d'apporter une réponse rapide dans des délais raisonnables ou en temps utile, selon les expressions, à un acte de délinquance posé. C'était une demande récurrente sur laquelle nous ne sommes pas revenus et les parquets ont été à la manœuvre. Les parquets ont été à la manœuvre et je dois dire qu'ils ont fait en marchant. Je ne pense pas qu'il y a 20 ans qu'on ait théorisé cette question de l'accélération du temps judiciaire. C'est simplement depuis quelques années qu'on a regardé ce qui s'était passé avec cette accélération sous deux angles. Sous l'angle d'abord de l'organisation donc de la justice, et je ne reviens pas sur ce qui a été dit par les précédents intervenants autour des questions de mise en place d'un service d'urgence qu'on appelle le traitement en temps réel, sur la question du développement des nouvelles technologies avec le recours à la visioconférence et à la dématérialisation des procédures. Mais je voudrais vous dire deux ou trois choses sur ce que ça induit en matière de traitement des affaires pénales. Sur le traitement des affaires pénales, trois grandes conséquences, j'allais dire plus positives, se sont dégagées de cette accélération du temps. D'abord, les parquets à effectifs constants ont fait preuve d'inventivité, d'imagination, de créativité grâce à leur travail collectif. Et pour répondre à l'ensemble des actes de délinquance posés, ils ont diversifié la structure de la réponse pénale. Le nombre d'affaires poursuivables en 10 ans n'a pas beaucoup augmenté finalement, puisqu'on était, en 2001 à 1,3 million d'affaires poursuivables, c'est-à-dire d'affaires susceptibles de recevoir une réponse pénale. On est aujourd'hui autour de, en 2011 en tout cas, autour de 1,4 million. Mais ce qui est spectaculaire et remarquable, c'est qu'en 2001, il y avait autour de 67% des affaires qui recevaient une réponse pénale. Aujourd'hui, on est autour de 88-89%. Donc, les parquets ont apporté, ont répondu à la demande du politique en apportant donc des réponses pénales aux actes posés. Et pour cela, ils ont diversifié donc ces réponses. Ils les ont diversifiées. Ça a été le développement colossal. Des mesures alternatives aux poursuites dans toute leur déclinaison. Parmi celles-ci, d'ailleurs, je dois signaler l'explosion des compositions pénales, alors qu'elles se sont ancrées dans le paysage, qu'on a l'impression qu'elles ont toujours existé. Eh bien, en 2001, elles n'existaient pas, et aujourd'hui, elles sont au nombre de 72 000. Dans le champ des poursuites correctionnelles, celles-ci ont changé de physionomie. C'est-à-dire que le tribunal correctionnel juge aujourd'hui les affaires les plus difficiles, là où les peines d'emprisonnement doivent être à la hauteur des actes commis. Mais ce nombre d'affaires qui leur sont soumises ont diminué. Elles sont passées de 400 000 en 2004 à 300 000 aujourd'hui, à peu près, jugement correctionnel rendu par an. Parallèlement, on a développé deux autres types de réponses qui, là aussi, sont devenues aujourd'hui des incontournables, se sont inscrits dans le paysage judiciaire. Ça a été l'ordonnance pénale, 159 000 ordonnances pénales en 2011. Et ça a été également le développement de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite CRPC, 60 000 en 2011, c'est-à-dire 13% de la réponse pénale. Ça, c'est le premier axe fort de l'accélération de ce temps judiciaire. Parallèlement, les parquets sont arrivés à peu près à maîtriser le délai dans lequel ils ont apporté une réponse à ces actes. Et c'est ainsi que les convocations par officier de police judiciaire qui permettent donc de saisir le tribunal correctionnel sont aujourd'hui délivrés dans des délais à peu près raisonnables, c'est-à-dire entre 1 et 4 mois. Je laisse de côté la situation des parquets des juridictions les plus importantes. Et enfin, le troisième axe, mais qui n'est pas des moindres, en conséquence positive, ça a été le renforcement des décisions contradictoires. C'est-à-dire que les tribunaux, de plus en plus, jugent les gens par jugement contradictoire ou contradictoire à signifier, c'est-à-dire que la personne est avisée que ce jour-là, elle doit se présenter devant ses juges. En 2012, sur 100 affaires correctionnelles, seules 3 d'entre elles étaient jugées par défaut. C'est-à-dire, dans 97 affaires, les gens savaient qu'ils devaient se présenter devant le tribunal, étaient présents ou absents, mais connaissaient la date à laquelle leur dossier allait être évoqué. J'aurais aimé en rester là et vous dire que ces conséquences positives l'emportaient largement sur des conséquences plus négatives. Et pourtant, celles-ci sont aujourd'hui de trois ordres. Elles sont de trois ordres, c'est tout d'abord la question du contrôle de la qualité des procédures judiciaires. L'inspecteur général a fait état effectivement d'une mission d'inspection de l'IGA qui est menée sur ce thème. Comment aujourd'hui les services de police et de gendarmerie, avec cette accélération du temps, cette charge de travail accrue, qu'est-ce qu'ils produisent aujourd'hui en termes de qualité? C'est d'ailleurs une question qui a été aussi évoquée par la Cour des comptes. Le deuxième point, c'est l'accroissement des délais de jugement. Car, de manière assez paradoxale, si finalement le parquet arrive à maîtriser ses délais de saisine des délégués du procureur notamment et des tribunaux correctionnels, quand on passe à la phase purement correctionnelle, on observe une augmentation du délai de traitement des affaires. C'est-à-dire qu'autrefois, là où les jugements étaient rendus dans l'ordre de par le tribunal correctionnel dans un délai moyen de 9,5 mois, on constate aujourd'hui que ce délai a tendance à s'accroître et dépasse aujourd'hui le délai de 10,4 mois pour être tout à fait précis. Cette phase n'est pas encore pas totalement stabilisée. Et enfin, se pose la question de l'individualisation l'action publique, l'individualisation de la réponse apportée par le parquet. Le parquet est finalement soumis à une injonction paradoxale. D'un côté, on lui dit « il faut apporter des réponses rapides », mais de l'autre côté, attention, il faut prendre en considération, dans la réponse que vous apporterez, prendre en considération la personnalité de l'auteur. Or, pour prendre en compte la personnalité de l'auteur, il faudrait avoir des procédures qui permettent de le faire et donc des procédures qui prennent du temps. Tout ça pour vous dire qu'on est arrivé à un moment, en ce qui concerne les parquets, à un moment de pause, à un moment de réflexion et à un moment d'interrogation. Il y a véritablement un besoin d'évaluation de cette politique pénale particulière au regard de deux types de critères. D'abord des critères quantitatifs, mais également des critères qualitatifs. Sur les critères quantitatifs, je ne reviendrai pas. On vous a évoqué le développement de nouveaux systèmes d'information décisionnelle plus performants, de tableaux de bord et de critères de pilotage qui sont certainement des outils de suivi, mais certainement pas des outils d'évaluation. Parce que cette évaluation, elle doit aussi être combinée, conjuguée avec des critères qualitatifs. Et ces critères qualitatifs ne peuvent pas se réduire à des critères de performance. À cet égard, il y a au ministère deux logiques différentes, celle des services judiciaires et celle de la direction des affaires criminelles, sans que pour autant ces objectifs soit nécessairement inconciliable. Mais en matière de politique pénale, et ce qui aujourd'hui peut-être nous fait défaut, c'est d'afficher clairement pour conduire ces évaluations les objectifs qu'une politique pénale doit poursuivre. Bien évidemment, on a tous en tête la réduction du taux de récidive, mais il ne saurait à lui seul permettre une évaluation complète et forcément complexe de ce que doit être une politique pénale. Et nous avons à réfléchir, tant praticiens que chercheurs, sur le développement d'un certain nombre d'autres critères, comme le traitement de la victime, les conséquences en termes d'insertion professionnelle et sociale des décisions rendues par les juridictions. Enfin, j'allais dire que sur cette accélération du temps, il y a des choses qui sont en notre main. Il y a des choses qui sont entre eux, mais d'autres qui ne le sont pas. Et je voudrais vous dire un mot des évolutions législatives qui s'annoncent. La ministre a parlé de choses qui sont en notre main, c'est-à-dire que le politique demain peut décider de réduire le champ d'intervention des magistrats par une dépénalisation d'une partie du contentieux actuellement traité. Mais l'Europe aussi nous impose une réflexion. L'Europe nous impose une réflexion parce que l'accélération du temps ne peut pas être synonyme d'abandon d'un certain nombre de garanties procédurales qui signent le procès équitable. Et c'est ainsi, par exemple, qu'une loi qui doit être publié de manière imminente, qui est la transposition en droit interne français d'une directive européenne sur l'accès aux procédures, va imposer au juge un délai de 2 mois pendant lequel la personne ou son avocat pourront demander à avoir accès au dossier. C'est donc, j'allais dire, presque un frein qui nous est imposé par les directives européennes, mais je crois aussi que c'est un mouvement inéluctable pour que la justice française continue à répondre aux standards européens de qualité.
Merci beaucoup. Et nous avons tenu pratiquement à 5 minutes près nos délais. Ça nous frustre malheureusement d'un débat aussi bien entre nous qu'avec la salle. Mais pour ne pas obérer le déroulement de cette journée, on va clôturer ici cette table ronde et passer à la deuxième table ronde. Merci en tout cas à tous les participants.